Presque 15h27, j'accueille Philippe en studio. Philippe, on perd jeudi, comme si on faisait partie du club, mais c'est notre club. Canadien perd jeudi contre les Red Wings, ouais. Et gagne samedi contre les champions de la Coupe Stanley. Explique-moi un peu.
Ben, c'est ça. Une équipe qui n'est pas une des meilleures de la Ligue nationale, ça arrive. C'est une équipe qui va manquer de constance. Puis quand elle ne joue pas à fond la caisse, quand elle ne respecte pas son plan de match, quand elle manque un petit peu d'opportunisme, ben, les lacunes, les manques apparaissent très vite. Et c'est ce qui se produit avec les Canadiens. Je me souviens l'an dernier, Patrick, on se demandait tout le temps avant les débuts des matchs, surtout en deuxième moitié de saison, quel Canadien verra-t-on ce soir? Est-ce qu'on va voir cette équipe inspirée, agressive, qui va dans les coins, qui patine puis qui impose son rythme? Ou on va plutôt voir une équipe un peu lente, qui manque un peu de dynamisme, qui se fie trop à son gardien de but. Et puis, c'est un petit peu une boîte à surprise. Il y a des soirs, ça allait bien, puis il y a des soirs, ça allait moins bien. Et j'ai l'impression que cette année, ça va peut-être ressembler à ça. Mais il ne faut pas s'en surprendre. Le Canadien est une équipe qui ne s'est pas améliorée pendant l'été. Ouais. On a fait simplement des ajouts pour quelques réservistes, un gardien substitut. Et dans le sport professionnel, quand tu ne progresses pas, c'est pas seulement le statu quo, tu régresses.
Tu régresses parce que les autres, ben, généralement, voilà, s'améliorent. Mais exactement, un qui s'est amélioré, c'est Jonathan Drouin.
Puis il y a un bon début de saison, puis il y a eu ce moment magique lorsqu'il a été interviewé par Renaud Lavoie après avoir reçu la première étoile samedi soir contre les Blues de Saint-Louis. Il a commencé, juste pour remettre dans le contexte, alors Renaud Lavoie lui demande qu'est-ce qui explique son fort début de saison, puis il dit bon, je m'implique et tout, puis il dit il y a l'appui de la foule aussi. Et à peine ces mots-là sortis de sa bouche, puis il allait enchaîner lui avec quelque chose d'autre, les gens se sont mis à applaudir, mais à applaudir vraiment là, une belle ovation, vraiment quelque chose de senti. Et là, Jonathan Drouin, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de, comme la majorité des joueurs de hockey qui se restaient là, qui n'auraient à peu près rien dit, il a levé ses deux bras, il avait encore ses gants de hockey, puis il s'est mis à applaudir la foule à son tour. Quand les gens ont vu ça, ben, je pense qu'ils ont applaudi deux fois plus fort. Et moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un beau moment, puis ça faisait longtemps qu'on a vécu ça. Quand l'équipe participe pas aux séries, puis que c'est un peu décevant, des beaux moments, il n'y en a pas tant que ça. Et les derniers dont je me souviens, c'est quand Carey Price a battu les records de Jacques Plante, puis il y a eu une ovation, même dans une saison perdante. Mais Carey Price n'est pas un gars démonstratif. Je me souviens qu'après le match, il avait expliqué qu'en attendant l'ovation, les larmes lui coulaient, mais il a bien pris soin de garder son masque pour pas qu'on le voie. Puis tout à coup, il avait simplement envoyé la main, mais c'est tout. Alors que Jonathan Drouin, il a pleinement assumé, il a embrassé le moment. Et je pense que pour le Canadien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si ça, Patrick, si un événement comme celui-là ne rappelle pas à l'organisation du Canadien combien c'est important d'avoir des joueurs francophones parce qu'il se passe quelque chose, une communion avec le public, ben si ça, ça leur montre pas, je pense que jamais rien ne leur montrera.
Excellent. En tout cas, tout le monde pousse pour lui. On veut qu'il réussisse.
Ben oui, c'est sûr.
Un gars talentueux, un gars de chez nous.
Les grandes vedettes québécoises, ça fait partie de l'ADN, de l'historique du Canadien. Ça dure depuis toujours, là. Ça commence avec Jack LaViolette, qui a été le fondateur. Non, mais c'est vrai, on rit, mais ça commence avec Jack LaViolette. Puis ça s'enchaîne avec combien d'autres par la suite? Aurel Joliat, puis Maurice Richard, puis Jean Béliveau, puis Guy Lafleur, puis Patrick Roy. C'est ça, l'ADN du Canadien. C'est bien beau amener le flambeau, là, avant le début du match, lors de la cérémonie d'ouverture. Mais c'est pas seulement la symbolique que ça prend, il faut que ça se reflète dans l'action aussi. Puis avec l'organisation actuelle, là, cet accent à mettre sur les joueurs québécois, on ne l'a pas vu beaucoup.
OK, parle-moi de Tiger Woods qui écrit sa biographie.
Oui, il a annoncé à Tiger Woods aujourd'hui qu'il va écrire ses mémoires. Ça va s'appeler Back. Back, c'est lié à son comeback, très certainement, sa victoire au tournoi des maîtres cette année, mais aussi, bien sûr, à ses problèmes de dos qui l'ont tellement ennuyé au cours des années. Il dit qu'il va tout raconter, même ses problèmes personnels. Probablement que les attentes sont grandes. Est-ce qu'il va accepter de tout révéler? J'ai hâte de voir aussi, justement, c'est ça, jusqu'à quel point il avait son divorce, sa dépendance au sexe, tous les problèmes personnels qu'il a eu, jusqu'à quel point il va vouloir creuser ça dans sa biographie. Ça devrait être pas mal intéressant si vraiment il se vide un peu le cœur. C'est pas le premier livre qui est écrit sur Tiger Woods, mais là, ça va être véritablement venir de lui. Écoute, ça risque d'être un long livre. S'il faisait un chapitre par victoire qu'il a remporté sur la PGA, il y aurait 81 chapitres. Alors, ça serait pas mal long, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un livre très attendu. On n'a aucune idée de la date de sortie. Mais quand on annonce le projet comme celui-là, je pense pas que ça sera avant un an.
Mais Tiger Woods, c'est un personnage fascinant, qui a été au top, qui est tombé et tout le monde pensait que sa carrière était finie. Et là, bang, il remonte à la surface.
Oui, tout à fait. Puis même son enfance, c'est quelque chose d'extraordinaire. La relation avec son père est absolument unique. Son père avait déclaré que quand il commençait à vraiment prendre d'assaut la scène du golf professionnel, il avait déclaré que son fils pourrait avoir une importance aussi historique que celle de Jésus. Alors, ça avait fait jaser un peu.
Son père avait une vision
Et Tiger Woods, interrogé là-dessus, avait eu une très bonne réponse. Il était parti à rire, puis il avait dit, « Ben voyons, vous connaissez, vous savez aussi bien que moi comment sont les pères quand ils parlent de leur fils. » Alors, je l'avais trouvé assez habile dans sa réponse.
OK, bizarre de match de soccer en Corée du Nord.
Je pense que c'est la nouvelle du jour. Alors, on est à l'heure actuelle dans la ronde des matchs de qualification pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. Et aujourd'hui, c'était un match entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'était à Pyongyang, donc la capitale de la Corée du Nord. Personne dans les estrades. Le stade complètement vide. On a interdit l'accès aux Nord-Coréens et aux Sud-Coréens aussi qui voulaient faire le déplacement pour aller encourager leur équipe. Aucun journaliste d'admis. On n'a même pas permis la télédiffusion du match. On a remis un DVD avec le match à la délégation coréenne pour qu'elle le rapporte à Séoul après pour qu'il diffuse. Et même le président de la FIFA, Gianni Infantino, de la Fédération internationale de soccer, a été surpris. Je m'attendais à avoir des estrades pleines. Moi, ici, aujourd'hui, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, la Corée du Nord reste un pays très mystérieux.
Les charmes discrets des dictatures staliniennes. Voilà. Merci, Philippe. On te retrouve tantôt après la pause. Catherine a plein de nouvelles de showbiz et à venir à l'émission, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, va venir nous expliquer les chicanes au royaume du don d'organes au Québec. Oui, oui, des chicanes dans le monde du don d'organes. Ça ne s'invente pas. Il est 15h33.